France Inter. Tout de suite le journal avec vous, Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des condamnations au procès des effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille, des peines jusqu'à 2 ans de prison ferme infligées ce matin, des copropriétaires condamnés, mais aussi un expert et l'ancien adjoint au maire chargé du logement insalubre. Jugement attendu par toute une ville, nous sommes sur place dans un instant. À suivre encore, ces pizzerias suspectées de blanchir l'argent de la drogue italienne. Ça se passe en Haute-Savoie, la carte de France de la sécheresse, 18 départements en crise. Ce voyageur français disparu en Iran il y a 3 semaines, il traversait le pays en stop. Les taux d'emprunt de la France qui ne cessent de grimper, désormais au niveau de ceux de l'Italie. Et puis Valenciennes-Dunkerque, les coureurs du Tour de France passent leurs derniers jours dans le Pas-de-Calais et le Nord, dans la pluie et le vent, ce qui nous promet du spectacle.
France Inter.
La rue d'Aubagne, la seule évocation de cette rue marseillaise, résume depuis 7 ans les drames de l'habitat insalubre dans notre pays. 8 locataires y sont morts le 5 novembre 2018 dans l'effondrement de 2 immeubles au 63 et 65 de la rue. Le tribunal judiciaire de Marseille rend donc son jugement aujourd'hui. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour Jérôme.
Vous avez assisté ce matin à la lecture mouvementée. Ancien élu, expert, copropriétaire, 16 prévenus étaient poursuivis et au final plusieurs ont été condamnés.
Oui, c'est contre certains propriétaires que le tribunal a prononcé les peines les plus lourdes, jusqu'à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique. Le tribunal a fustigé leur indifférence totale face au délabrement des immeubles et des appartements, leur mépris assumé du sort de leurs locataires. Dans l'un des logements, fissure de la moisie sur un plancher qui s'effondre, rappelle le président, alors qu'un enfant de 9 ans vivait là et que sa mère a péri sous les décombres. À l'écoute de ce constat, l'un des copropriétaires condamnés chute à la barre et fait un malaise. Autre condamné, l'expert trop pressé qui a bâclé la visite de l'immeuble en péril, 2 ans de prison avec sursis contre lui. Même peine prononcée contre le seul élu jugé, l'ancien adjoint au maire en charge de la prévention des risques, qui, malgré la connaissance de la situation alarmante de l'habitat indigne à Marseille, n'a pas pris la mesure des enjeux, dit le tribunal. Les condamnés sont sortis de la salle d'audience sous les huées et les cris assassins scandés par la foule.
Et le tribunal a aussi prononcé des relax ce matin, Mathilde.
Oui, 3 copropriétaires relaxés. Relax aussi du bailleur social propriétaire de l'immeuble inhabité qui s'est également effondré. Le tribunal a expliqué qu'eux avaient réagi aux alertes même si leurs réactions n'ont pas empêché le drame. Des relax qui ont entraîné des soupirs d'exaspération dans la salle d'audience et des larmes sur les visages de certains proches de victimes.
Mathilde Vinceneux en direct de Marseille pour Inter. À Paris, vendredi, un homme a sauvé des flammes 2 femmes et 4 enfants qui étaient prisonniers dans l'appartement à côté du sien, dans le 18e arrondissement de la capitale. Il n'a pas hésité à emprunter pour cela une corniche au-dessus du vide. Foussez-nous, Cissé, c'est son nom, sera décoré pour acte de courage et de dévouement, annonce ce matin le ministère de l'Intérieur. C'est le procès d'un attentat islamiste commis en prison. 5 mars 2019, 2 surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe sont grièvement blessés au couteau par un couple radicalisé. Michael Chiolo, ex-sympathisant néo-nazi qui a prêté allégeance au groupe État islamique, et sa compagne Anan Abou Yana qui lui rendait visite. Elle est tuée dans l'intervention de la police. Lui attend aujourd'hui le verdict de la cour d'assises spéciale de Paris, tout comme 4 coaccusés qui les auraient aidés à préparer cet attentat. Le parquet a demandé contre lui une peine rarissime, la plus lourde du code pénal français, la perpétuité incompressible. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
Charlotte, vous suivez ce procès pour Inter. Ce matin, ces coaccusés ont tous clamé une dernière fois leur innocence.
Oui, invité à livrer ses derniers mots à la cour, le premier accusé se lève, attrape ses lunettes d'une main, quelques feuilles manuscrites de l'autre et se lance dans une sorte de résumé comptable débité à toute vitesse. 96 heures de garde à vue, une déclaration spontanée, pensant à coup sûr que ça me disculperait, 1670 heures d'isolement, 23 jours de procès au cours desquels 92 fouilles au corps, un non-lieu, un appel, un réquisitoire et une amertume double lorsqu'on tente de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Après lui, les 2 autres accusés à sa gauche viennent rappeler à leur tour retour. Comment l'un voyait s'achever 20 ans d'incarcération cet été, l'autre 16 ans de détention. J'ai payé pour ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai envie de sortir. J'ai une fille que je voudrais voir grandir, ajoute cet accusé de 35 ans, le seul à se tourner vers les victimes pour leur souhaiter le meilleur pour la suite, que du bonheur. Quant au principal accusé, Michael Chiolo, il n'a rien à ajouter. Il faut dire que lui, pour lui, pas d'enjeu sur la question de sa culpabilité, mais sur la lourdeur de sa peine uniquement, celle d'une perpétuité incompressible si la cour d'assises spéciale choisit de suivre les réquisitions du parquet antiterroriste à son encontre.
Charlotte Piret en direct de la cour d'assises spéciale. Des pizzerias de Haute-Savoie ont-elles servi à blanchir de l'argent sale, de l'argent gagné illégalement par la mafia calabraise, la 'Ndrangheta? C'est ce que pense la justice qui a arrêté et mis en examen en mai dernier 5 membres d'une même famille, propriétaires de plusieurs restaurants italiens dans le département. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Ils sont soupçonnés d'avoir blanchi plusieurs millions d'euros.
Oui, et de sources proches de cette enquête sensible et inédite, on confirme ce matin les informations de nos confrères du Parisien, en particulier sur cette famille qui tenait jusqu'en mai dernier Itré Sapori à Saint-Julien-en-Genevois et la Calabria Mia à Siantrier, pas très loin non plus de la Suisse, en Haute-Savoie. Des chalets avec beaucoup de cachets où l'on servait de très bonnes pizzas, comme en Calabre. Il aura fallu 3 ans aux gendarmes enquêteurs pour établir des liens présumés entre la famille française, établie donc en Haute-Savoie, et de Driné, deux chefs présumés de la 'Ndrangheta, la grande mafia calabraise emprisonnée en Italie. Charlotte Mauge est maître de conférence à l'université Lyon 3, spécialiste des mafias italiennes.
C'est une enquête qui a été très compliquée. Ça a été compliqué aussi d'avoir la coopération des Italiens. Il faut que ce soit une enquête qui soit pionnière pour arriver à décrypter la présence mafieuse en France. Tout l'enjeu est de comprendre d'où vient l'argent qui est ensuite blanchi. Mais vu l'implication d'Endrine dans le trafic de drogue, il est fort à parier que ce soit de l'argent qui vienne justement du narcotrafic. S'ils déclarent qu'ils ont fait 300 pizzas alors qu'ils n'en ont fait que 50, ils blanchissent automatiquement l'argent par le biais de l'activité commerciale.
L'enquête porte également sur des emplois plus ou moins fictifs et des mules, des personnes qui transportaient du cash en Suisse notamment. Les 5 suspects mis en examen dans cette affaire ont en tout cas à ce jour nié tout blanchiment et tout lien avec la 'Ndrangheta.
Emmanuel Leclerc, l'alerte incendie est maximale dans 3 départements du Sud, le Var, les Bouches-du-Rhône et l'Aude, en rouge. Le risque de feux de forêt y est très élevé. De très nombreux massifs forestiers sont fermés. Les pompiers craignent notamment les effets du vent. Dans l'Aude, l'incendie déclenché samedi par une voiture en flammes au bord de l'autoroute A61 a été maîtrisé. Hier soir, il a détruit 430 hectares. Un feu de végétation, en revanche, est en cours à Fréjus, département du Var. Un camping, le camping du Colombier, a été évacué. Près de 95 pompiers sont engagés sur place. Un risque incendie encore aggravé dans plusieurs régions par la sécheresse. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
18 départements sont en situation de crise.
Oui, en crise, ça veut dire le niveau de restriction sécheresse le plus élevé. Ça veut dire des limitations d'eau pour préserver les usages prioritaires, santé, sécurité, eau potable et abreuvement des animaux. Au total, désormais, 48 départements connaissent des restrictions d'eau. Alors ça va dans le Nord ou encore le Pas-de-Calais, notamment dans le Boulonnais, mais aussi dans l'Est, le Doubs, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, et aussi dans le Sud-Est, les Bouches-du-Rhône, où plus de 29 communes sont concernées. Si vous voulez savoir si votre commune est sur cette carte, eh bien vous serez renseigné auprès de votre mairie, mais il existe aussi un outil en ligne, les cartes de Vigio, un service de l'État, scruté de près en ce moment par Yves Tremblay, directeur de recherche en hydrologie à l'Institut de recherche pour le développement.
On peut voir quand même 2 dynamiques différentes. Par exemple, les Hauts-de-France ou les départements de l'Est. Je vois la Moselle, Meurthe-et-Moselle, où en fait, là, on a la conséquence d'un printemps très sec. Donc, la conjugaison de ça, plus la canicule qu'on a eue, beaucoup d'évaporation au niveau des sols, notamment. Et par contre, si on regarde dans le Sud, plutôt les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, là, au contraire, on est en sécheresse depuis au moins 3-4 ans.
Et ça veut dire 2 France, hein, dans certains départements comme le Nord, une sécheresse conjoncturelle. Et puis en revanche, dans les Pyrénées-Orientales, une sécheresse qui s'installe pour durer année après année.
Sandy Dauphin, aux États-Unis, le bilan des inondations au Texas a été revu à la hausse ce matin. Il dépasse désormais les 80 morts et il devrait encore s'alourdir selon les autorités locales, car 10 fillettes sont toujours portées disparues. L'espoir de les retrouver est très mince. Elles participaient à un camp d'été chrétien sur les rives du fleuve Guadalupe, ce fleuve dont les eaux ont monté de 8 mètres en seulement 45 minutes vendredi. Plusieurs habitants se plaignent de n'avoir pas été avertis à temps. Donald Trump, lui, rejette tout lien entre les baisses de budget dans les services météorologiques nationaux et le bilan de cette catastrophe. Le président américain qui reçoit ce soir à Washington le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont débuté hier soir au Qatar pour aboutir à un cessez-le-feu. Un accord permettrait la libération de prisonniers palestiniens, mais aussi d'otages israéliens qui sont détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Ils sont encore 50, dont 27 sont morts, selon l'armée israélienne. Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem, a rencontré le père de l'un de ces otages, Itay Shen.
Itay Shen a la nationalité américaine et son papa Ruby a évidemment beaucoup d'espoir à seulement quelques heures du dîner entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou.
We've had too many expectations.
On en attend beaucoup. Nous espérons que les États-Unis vont convaincre le Premier ministre que c'est le moment. C'est dommage que nous, les familles d'otages, ayons plus d'attentes vis-à-vis des États-Unis que de notre propre gouvernement, alors que 74% de la population israélienne est d'accord pour que les otages soient libérés.
Depuis 640 jours, le Hamas détient 20 otages présumés vivants et 30 dépouilles, dont, selon l'armée israélienne, celle d'Itay Shen. La famille du soldat ne veut pas organiser de cérémonie tant qu'elle n'aura pas la preuve formelle de sa mort.
Le Hamas n'a donné aucune information sur son état ou l'endroit où il se trouve. Il y a toujours un doute parce que nous n'avons pas de preuves.
Les termes de la possible nouvelle trêve sont discutés en ce moment même à Doha, au Qatar. Les négociateurs échangent sur les modalités d'un cessez-le-feu de 60 jours, de la libération de 10 otages vivants et de la restitution de 18 corps.
Thibault Lefebvre à Jérusalem pour Inter. La France a beau déconseiller depuis des mois à ses ressortissants de se rendre en Iran. Un jeune originaire de Besançon vient pourtant d'y disparaître. Il a 18 ans, il s'appelle Lennart Monterlo. Il réalisait un long voyage à vélo. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Sa famille n'a plus de nouvelles de lui depuis 3 semaines.
Alors même qu'il documentait jour par jour son long périple à vélo sur les réseaux sociaux.
Jour 152 de l'aventure France-Japon à vélo. Aujourd'hui, je me trouve en Iran et je quitte le confort pour une aventure folle dans le désert et la chaleur pour découvrir les dunes de sable près de Varzaneh.
Le voici donc début juin dans le désert iranien. Lennart Monterlo s'est revenu quelques jours plus tôt en Iran pour finir ce périple à vélo commencé l'été dernier. Quelques jours plus tard, il poste une toute dernière vidéo le 15 juin.
Ça fait plus d'un mois que je suis en Iran. La date d'expiration de mon visa va arriver le 25 juin et donc impossible pour moi de faire tout ça à vélo sur les 20 jours. Je vais faire quelques étapes en stop qui vont m'éviter de rouler sous 40, 50 degrés dans le désert.
Dernière destination connue, la ville de Shiraz, frappée par l'offensive militaire israélienne le 15 juin dernier. Au même moment, les médias iraniens annonçaient également une vague d'arrestations visant des ressortissants européens dans différentes régions du pays, sans donner plus de détails. La région dans laquelle ils se trouvaient à faire de l'autostop, notamment, est également connue pour être dangereuse. Sa disparition est jugée inquiétante, indique une source du Quai d'Orsay à l'AFP. « Suis-je inconscient ou courageux ?» demande le jeune homme de 18 ans sur son compte Instagram. Le Quai d'Orsay demande à tous les ressortissants français de ne pas se rendre en Iran, évidemment, et à tous ceux de passage de quitter le territoire iranien au plus vite.
Laurent Kramer.
France Inter, le journal de 13h, Jérôme Cadet.
Le moment est très grave. C'était le commentaire de l'ancien Premier ministre Michel Barnier en novembre dernier, quand le taux d'emprunt de la France avait temporairement dépassé celui de la Grèce. La Grèce, le pays le plus endetté de l'Union européenne. Eh bien, nouveau signe de l'inquiétude des marchés financiers vis-à-vis de notre dette. Vendredi, pour la première fois depuis 20 ans, la France a emprunté à des taux supérieurs à ceux des Italiens, qui eux aussi sont plus endettés que nous. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Quelle est l'explication ?
Eh bien, c'est à nouveau la confiance des investisseurs qui financent la dette française et qui se rémunèrent dessus.
qui s'effrite. Depuis l'adoption du budget en février dernier, les taux d'emprunt pour la dette tricolore étaient redescendus à des niveaux un petit peu moins élevés que précédemment. Mais depuis début juin, notent les analystes, la tension remonte sur les marchés financiers. Une fébrilité à l'approche du verdict sur la feuille de route budgétaire pour 2026 la semaine prochaine. Où trouver ces 40 milliards d'euros pour, à minima, stabiliser le poids de la dette française montée à 113% du PIB? François Bayrou doit répondre à cette question le 15 juillet, mais la fragmentation du paysage politique français inquiète visiblement toujours les investisseurs. Et dans le même temps, eh bien l'Italie, elle, rassure, elle part de plus loin, mais la tendance s'inverse. Sa dette représentait il y a 3 ans 140% de son PIB, elle n'en représente plus que 135%. Par ailleurs, Giorgia Meloni tient un discours très pro-patronal, hein, anti-régulation, qui rassure les marchés financiers. En tout cas, cette rencontre des courbes, des taux d'intérêt vendredi dernier est loin d'être anecdotique. Elle montre à nouveau, conclut un expert des dettes européennes, qu'il ne faudrait pas jouer avec le feu, budgétairement parlant, au risque de voir la charge de la dette continuer d'augmenter et de manière incontrôlée.
Claire Chaudière, alors que les ministres de l'économie et des comptes publics continuent aujourd'hui leur consultation en vue de préparer le budget de l'an prochain. L'appel des représentants des écoles de conduite du pays. Elle dénonce une pénurie dramatique de places d'examen pour le permis de conduire et des délais qui s'allongent. Ces écoles de conduite réclament des mesures d'urgence dès cet été. Il a manqué l'an dernier, selon elle, près de 600 000 places d'examen dans notre pays. L'actualité économique et sociale qui rattrape le Tour de France aujourd'hui. Mobilisation des salariés d'ArcelorMittal qui protestent contre le plan de suppression de 636 postes, dont près de 300 à Dunkerque. C'est la ville d'arrivée du jour. Les salariés et leurs familles ont prévu de parcourir les 400 derniers mètres de l'étape à pied en début d'après-midi pour se faire entendre. Les coureurs, eux, sont attendus peu après. Il sera autour de 17h15. L'étape fait 178 km aujourd'hui au départ de Valenciennes, où vous vous trouvez. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
Sur la moto France Inter, le départ de l'étape sera donné dans quelques minutes. Elle est a priori promise aux sprinteurs, à moins que...
Et oui, à moins d'une surprise, effectivement, c'est vrai que le parcours en trompe-l'œil de cette première semaine a été tracé pour ça, hein, finalement, avec des pièges un peu partout. Ce sera le vent, le principal piège à surveiller aujourd'hui. On a vu que ça avait eu de grosses conséquences, hein, déjà sur la première étape, avec ces fameuses bordures, les cassures dans le peloton qui sont causées par ce vent. La pluie, ça c'est la loterie, bah, elle est bien tombée, comme hier, hein, d'ailleurs, ce matin à Valenciennes. Elle continue de tomber sur ce tout début d'étape, mais a priori, l'étape devrait être plutôt sèche cet après-midi, mais de toute la semaine quand même, cette étape est celle qui semble tendre les bras quand même aux sprinteurs, avec une seule difficulté, le Mont Cassel, déjà emprunté avant-hier, mais ce sera tout de même assez loin de l'arrivée. Journée a priori donc pour les sprinteurs, où l'on pourrait voir s'illustrer, on en parle beaucoup, la nouvelle pépite italienne de la discipline, Jonathan Milan, ou encore les Belges, Tim Merlier, ou Jasper Philipsen, vainqueur déjà de la première étape, qui pourrait en offrir une troisième consécutive à son équipe alpecine de Koenig, l'équipe de Mathieu Van Der Poel.
Facile à reconnaître puisqu'il porte le maillot jaune. Merci Nicolas Perronnet, avec les moyens techniques de Julien Girard. Pour les coureurs et pour les autres, le temps de votre après-midi.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps est plus frais avec des averses.
Oui, éclaircies et nuages au menu, quelques averses, un vent de nord-ouest sensible. Les averses sont plus nombreuses et parfois orageuses de la région parisienne vers le Grand Est, le nord du Massif central et le nord des Alpes. Il y a un peu de neige possible vers 2400 mètres sur les Savoies. Les éclaircies s'élargissent tout de même sur les régions voisines de la Manche. Et puis autour de la Méditerranée, là, le soleil se montre généreux, avec du vent jusqu'à 60 à 80 km à l'heure, 90 pour la Tramontane, 90 à 110 même sur le nord de la Corse. Attention aux fortes vagues. L'ambiance se rafraîchit, on passe sous les valeurs de saison, hein, souvent 19 à 23 degrés attendus, davantage vers la Méditerranée, 27 à 33 degrés. Et puis demain, encore du soleil, du vent en Méditerranée, plus de soleil sur les régions de l'ouest, mais encore des averses parfois orageuses sur un quart nord-est. Et puis pour la suite de la semaine, c'est le soleil qui va revenir.
Élodie Calac, Météo France.